Ce que je vous propose, c'est d'écouter quelques minutes Félix Faucon, et puis avec Houssaini Ola, ensuite, nous répondrons à vos questions éventuelles, et plus particulièrement sur toutes les problématiques un peu évoquées autour de la campagne, de la V11, etc. Enfin, de vraiment là, pour le coup. De la tarification à l'activité, puisque c'était sur ce thème qui est intervenu Félix Faucon. Voilà. Merci. Nous allons lancer maintenant la vidéo.
Félix Faucon, bonjour. Merci d'avoir accepté de répondre à nos questions pour les congressistes d'ADELF et moi. Je rappelle en préambule que vous êtes chef de service au sein de la Direction générale de l'offre de soins. Et que vous êtes l'adjointe d'Annie Poder, la directrice générale.
Très bien, bah écoutez, merci de cette occasion de m'adresser aux participants du colloque. J'avais été très heureux de participer à celui de l'année dernière à Nancy et je regrette vraiment de ne pas pouvoir être présent physiquement parmi vous tous aujourd'hui parce que j'avais vraiment beaucoup apprécié la qualité des échanges et des présentations à cette occasion.
Merci. Peut-être pour commencer, un petit retour en arrière sur l'année 2009. L'année 2009 a été une année conséquente en termes de chantier. C'est tout d'abord l'année de la mise en œuvre de la V11, de la nouvelle classification, et c'est une évolution qui a impacté fortement le travail des médecins responsables d'information médicale. Ils sont nombreux à nous écouter aujourd'hui. C'est aussi l'année, je dirais, de l'annonce du report de la convergence intersectorielle sur 2018, mais également du démarrage de travaux lourds, de travaux très conséquents d'instruction, justement, dans le cadre de cette convergence, avec des travaux qui ont déjà eu des impacts pour la tarification en 2009, en particulier, je pense, à la précarité et à la PDSH. Quelles sont, sur la base de toutes ces remarques, quels sont finalement les enseignements, quel est le regard que vous pouvez porter sur l'année 2009 et ses réalisations?
Alors, il est vrai que l'année 2009 a été finalement le point d'aboutissement d'un certain nombre d'efforts, de réflexions, de préparations techniques pour la mise en œuvre de la nouvelle classification et de la V11. Et qu'à certains égards, malgré ces efforts de préparation, on était sur certains sujets un peu dans l'inconnu. Le passage à la tarification à 100% dans le secteur public ne date que de 2008 et on pouvait se demander quelle était la capacité des établissements finalement à s'adapter à une nouvelle classification, de nouveaux modes de description des séjours. Au bout du compte, de ce point de vue, le bilan qu'on peut faire de l'année, c'est vraiment, je dirais, une sorte de coup de chapeau à rendre aux équipes dans les hôpitaux qui sont les chevilles ouvrières de ce travail de description des séjours, donc de génération des ressources financières pour les établissements, puisque ce qu'on a observé, c'est une très grande rapidité finalement des établissements à s'adapter à cette nouvelle situation, rapidité supérieure à ce que nous avions anticipé, et qui aujourd'hui fait qu'il n'y a pas réellement de différence dans la rapidité à s'adapter entre les deux secteurs public et privé. Donc ça, c'est déjà un premier motif de satisfaction. Ça veut dire que tous les messages qui ont été adressés en direction des établissements sur un recueil exhaustif et qualitatif des séjours ont été non seulement entendus, mais aussi appliqués dans les établissements. Ce qu'il faut bien voir aussi, c'est que un certain nombre de difficultés sont apparues avec la nouvelle classification. On peut évoquer la surveillance continue, on peut évoquer tel ou tel autre aspect un peu ponctuel qui ont été détectés suffisamment tôt dans le cours de l'année, ce qui nous a permis d'y travailler et donc de concevoir en pleine concertation avec les acteurs concernés, les sociétés savantes, etc., les palliatifs permettant, à l'occasion de la campagne 2011, de remédier à ces difficultés identifiées avec la nouvelle classification. Et donc, au bilan, ce que l'on peut dire de cette année, c'est qu'elle a été assez paradoxale dans la mesure où nous étions au démarrage de la campagne sur peut-être une période un peu de sidération des établissements face à cette nouvelle classification, et où malgré cette phase de sidération en début de campagne, de mars à avril-mai en gros, il y a eu un effet de mise en ordre de marche des établissements qui s'est vraiment accéléré jusqu'à la fin de l'année, jusqu'à atteindre un niveau plus que satisfaisant dans cette capacité à s'approprier une nouvelle classification. Ça, c'est un enseignement, je pense, qu'on saura retenir pour l'avenir. Voilà sur l'année 2009 à grands traits ce qu'on peut retenir de cette année. On peut quand même ajouter, au-delà de la classification, que ça a quand même été l'année d'un événement épidémiologique un peu exceptionnel, qui a été celui de la grippe A. Je ne me placerai pas sur le terrain de la vaccination, mais sur celui de l'hospitalisation. Et s'agissant de l'hospitalisation, l'année 2009 a été très fortement marquée en novembre et en décembre par une augmentation de près de 30 000 séjours hospitaliers, dont la codification correspond strictement à un séjour lié à une infection grippale, qui a généré une activité extrêmement forte en fin d'année. Et ça aussi, c'est un élément qui caractérise l'année 2009 dans l'activité des établissements.
Bien, nous allons passer maintenant, nous sommes en 2010, donc nous allons passer à 2010. 2010, c'est l'année de la mise en œuvre de la loi hôpital, patient, santé, territoire, la fameuse loi HPST, dont qu'on a beaucoup évoqué en 2009. C'est la mise en place, entre autres, d'une nouvelle gouvernance au sein des hôpitaux. C'est la mise en place des agences régionales de santé. Donc un contexte qui est quand même en mutation assez profonde. En parallèle, je dirais, ce sont des objectifs qui sont affichés, comme celui du retour à l'équilibre financier des hôpitaux pour 2012. C'est la continuité de chantiers lourds, de chantiers importants dans le cadre de la convergence. C'est également la convergence ciblée, la problématique de la convergence ciblée. Comment voyez-vous l'année 2010 avec le souhait des hôpitaux, le souhait des cliniques d'une stabilité, enfin d'un principe de stabilité du dispositif pour leur permettre, eux, de se positionner, je dirais, en termes stratégiques à moyen terme.
Alors tout d'abord, la façon dont la campagne 2010 a été construite repose sur un premier principe qui est effectivement celui de la plus grande stabilité possible. Alors cette stabilité ne veut pas dire immobilité, puisqu'il s'agit bien de la stabilité des méthodes. Par exemple, la tarification a été construite en actualisant le CASMIX des établissements sur la base de l'activité telle qu'elle a été constatée sur les 9 mois de la campagne 2009, en l'extrapolant évidemment en année pleine, de façon à ce qu'on ait un édifice tarifaire qui colle le plus possible à la réalité des établissements. Donc, ce n'est pas l'immobilité, mais c'est quand même une stabilité aussi grande que possible, de façon à donner de la visibilité aux établissements quant aux grands équilibres médico-économiques sur la base desquels ils construisent leur activité. Au bout du compte, ils essayent d'assurer effectivement, et ils y parviennent heureusement dans très nombreux cas, l'équilibre économique global de l'établissement. Alors, 2009 et 2010 sont quand même deux années qui sont placées sous l'égide, malheureusement, de la crise financière et économique marquée que nous traversons. En 2009, un certain nombre d'amortisseurs ont joué. Ce ne sera sans doute plus le cas compte tenu de la tension économique globale et en particulier celle qui pèse sur les budgets de l'État et ses budgets sociaux pour l'année 2010. Autrement dit, l'équation difficile à laquelle les chefs d'établissement vont devoir se livrer, à la résolution de laquelle ils vont devoir se livrer, c'est comment maintenir, préserver les équilibres économiques en optimisant leur organisation interne, en étant extrêmement vigilant sur les facteurs de coût, de production de soins dont ils ont la charge, car, je voudrais insister là-dessus, ce n'est pas par la course au volume ni aux parts de marché que la solution à ce problème pourrait être trouvée, dans la mesure où l'ONDAM va devenir un outil de plus en plus limitatif quant aux capacités de financement du système en regard de l'activité de l'offre de soins. Et c'est là que joue pleinement le rôle, vous l'avez évoqué dans votre question, le rôle des agences régionales de santé, puisqu'il appartient bien au directeur général de l'agence régionale de santé d'être à la fois le garant de la régulation économique du système à l'échelle de la région et donc de la bonne adéquation des ressources qui sont utilisées par la région en regard des besoins de soins de cette région. Et c'est en cela que l'optimisation de l'organisation, de la structuration des soins, la pertinence des mutualisations, des coopérations, est vraiment dans la main du directeur général de l'Agence régionale de santé, qui, de plus, avec la loi HPST, je dirais, dispose d'une courroie de transmission beaucoup plus opérationnelle que dans l'ancien système vis-à-vis des directeurs d'établissement pour stimuler ces reconfigurations quand elles sont nécessaires. Et le directeur général de l'Agence régionale de santé est aussi le garant du bon équilibre financier des établissements, notamment publics, qui sont placés sur son territoire et vis-à-vis desquels il exerce la tutelle de l'État. Et à cet égard, c'est à lui aussi d'être en lien avec les équipes de direction et les équipes médicales des établissements concernés, d'être un dynamiseur tous les efforts qui sont à mettre en œuvre pour optimiser sur toute la chaîne de production des soins la nature et le coût des intrants de cette chaîne, sans nuire bien évidemment à la qualité du soin produit. Donc cette dualité-là du rôle du régulateur régional, qui est le directeur général de l'agence régionale, devrait normalement appuyer, aider les équipes de direction des établissements dans leurs efforts de résolution de cette équation, comment augmenter la performance en ne jouant pas au-delà de ce qui correspond à la stricte couverture des besoins régionaux, en ne jouant pas de l'effet volume. Je rappelle par ailleurs que les contrôles de l'assurance maladie sur la façon dont les séjours peuvent être codés, ces contrôles vont s'intensifier et c'est une bonne chose. C'est la contrepartie légitime de la liberté laissée aux acteurs dans un dispositif de financement qui n'est plus celui de la dotation globale et qui donc accroît la responsabilité des acteurs concernés par l'offre de soins. Donc l'exhaustivité dans le recueil des séjours, oui, forcer la qualification des séjours en jouant de telles ou telles astuces, entre guillemets, pour obtenir un financement qui n'est pas exactement celui qui est du niveau de la prise en charge concernée, là non, et ça, ce type de comportement doit être sanctionné et le sera certainement par l'assurance maladie.
De nombreux médecins du département d'information médicale vous écoutent, peut-être dans la continuité de ce que vous venez justement d'évoquer sur vos attentes par rapport à 2010, quel message vous souhaiteriez leur faire passer? Quelles sont vos attentes plus spécifiques, peut-être vis-à-vis de ces professionnels?
Si vous voulez, pour reboucler d'une certaine façon avec les propos introductifs, d'abord leur adresser un très sérieux coup de chapeau par rapport à cette capacité de dynamisation de tout le processus de recueil des informations relatives au séjour hospitalier. La recherche de l'exhaustivité, elle est naturelle et d'une certaine façon, tant qu'on n'est pas exhaustif, ça veut dire qu'une partie des soins produits ne trouve pas sa contrepartie en termes de rémunération et ça, c'est forcément dommageable pour l'ensemble de l'établissement. Donc, je crois que ce qui s'est passé en 2009 a bien souligné le propos que j'avais tenu il y a à peu près un an de cela devant le même auditoire, à savoir que les médecins d'IM sont vraiment partie prenante de la stratégie de l'établissement, dans la mesure où il ne peut pas y avoir une stratégie des fins sans stratégie des moyens, et ils sont placés réellement au cœur de la stratégie des moyens de l'établissement, du fait de cette fonction centrale sur la codification des séjours et le recueil de l'information médicalisée. Donc, ça, c'est le premier signal. Le deuxième, c'est de dire qu'il faut qu'ils continuent la pédagogie qu'ils ont déjà engagée vis-à-vis de l'ensemble de la communauté médicale et administrative des établissements, pour que l'ensemble des acteurs perçoivent bien tous les enjeux qu'il y a à coder justement les séjours hospitaliers. Bientôt, nous allons déployer, le chantier est ouvert et s'est accéléré depuis le début de l'année 2010, nous allons déployer un nouveau mode de tarification avec une facturation directe à flux continu. Et donc la boucle de rétroaction pour corriger éventuellement les imperfections sur la description des séjours sera beaucoup plus courte qu'elle ne l'est aujourd'hui. Et dans cette attente et dans cette perspective, ce rôle de pédagogie interne porté par les médecins DIM est vraiment essentiel pour bien préparer l'ensemble des établissements à ces enjeux. Donc voilà ce que je voulais dire en conclusion, en vous souhaitant de passer ici à Bordeaux un excellent colloque avec des échanges riches, utiles et qui nous aideront aussi à nourrir nos propres réflexions pour faire progresser l'ensemble des chantiers qui permettront de mieux construire la tarification à l'activité et de l'étendre, comme il est prévu dans les années qui viennent, aux soins de suite et de réadaptation et aux activités liées à la psychiatrie. Voilà, merci.
Merci à vous, au nom d'Adelphe et des moi, je vous remercie beaucoup pour cette interview,
c'était
pour cet échange merci. En tout cas. Merci.
Alors, oui, c'est en effet une réalité. Alors, c'est vrai aussi qu'il fallait le temps que ces contrôles s'organisent, je dirais, par rapport en particulier aux profondes évolutions qu'on a eues. Il est clair que, ça a été évoqué hier, le guide est de plus en plus précis. Et c'est vrai qu'au fil du temps, on est amené à amener des précisions de plus en plus nombreuses pour éviter justement toutes ces zones permettant des interprétations différentes d'un contrôleur entre guillemets à l'autre. Et donc en effet on travaille aussi avec l'assurance maladie pour homogénéiser davantage finalement les contrôles dans leur forme et sur le niveau de preuve attendu, puisque c'est souvent ça, et sur des problèmes de contestation, il faut aussi qu'on soit très clair quelle est la finalité de ce contrôle, hein, sur quoi va-t-il porter, etc. Donc voilà, on avance dans ce sens-là, en effet. Mais je crois que... Joël, tu veux rajouter quelque chose, peut-être ?
Oui, bonjour. Je ne sais pas si on m'entend. Oui. Quelques précisions par rapport à ce que vient de dire Eliane sur les contrôles et en réponse donc à votre interrogation. C'est vrai qu'il y a une inquiétude renouvelée, réitérée, effectivement, qui s'est exprimée dans différents ateliers ces jours-ci, enfin hier et aujourd'hui, sur ce sujet des contrôles. C'est vrai qu'il y a eu quelques démêlés, on va dire, depuis la mise en place de ces contrôles, mais il y a une recherche permanente d'harmonisation à la fois du déroulement des contrôles, de leur mise en œuvre et de la façon de procéder. Alors, on ne peut pas empêcher, évidemment, que ici ou là, il y ait quelques avaries ou quelques... même pas des avaries, quelques divergences entre les acteurs du contrôle. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une réelle volonté, à la fois côté ministère et à la fois assurance maladie, d'harmoniser les pratiques et l'assurance maladie au niveau national, la DCCRF en l'occurrence, la direction du contrôle contentieux et de la répression des fraudes, est en permanence intéressée à harmoniser les pratiques de contrôle sur le terrain. Et vous le savez probablement, régulièrement sont organisées à son initiative des rencontres avec les acteurs hospitaliers, par l'intermédiaire des fédérations d'hospitalisation notamment, pour justement faire remonter les anomalies, pour que dans cet esprit d'être à l'écoute justement du terrain, d'être en permanence vigilant et de pouvoir mettre en œuvre des attitudes correctrices, si c'est le cas, et en cas de besoin, effectivement, de ce qui est observé. Donc il y a une vraie demande et une vraie attention qui est portée à cette problématique. Effectivement, après ça, on sait que les contrôles sont diffusés sur l'ensemble du territoire. On ne peut pas s'attendre à ce qu'il y ait une parfaite harmonie. Mais c'est en tout cas, je le répète, excusez-moi, mais pour que vous en soyez assurés, c'est une préoccupation à la fois du ministère et de l'assurance maladie. Alors effectivement, on sait qu'il y a un gros travail à faire, mais par rapport à la demande de l'assurance maladie, effectivement, elle a demandé plusieurs fois aux fédérations d'hospitalisation de remonter les anomalies observées. Alors, il y a eu des remontées qui ont été un peu pas forcément bien observées, mais en tout cas, je pense que, je ne parle pas à la place de l'assurance maladie, mais je pense que si d'aventure il y a ici ou là des aberrations qui sont constatées, il ne faut pas hésiter à les faire remonter.
Oui, alors sur ce sujet, moi, je voulais intervenir parce que il y a des anomalies qui sont un peu criantes, je veux dire, sans rentrer dans le détail des façons de juger tel ou tel dossier, mais simplement en termes d'organisation, on voit bien au niveau du territoire qu'il n'y a pas du tout la même répartition des contrôles sur tout le territoire. La périodicité des contrôles par établissement n'est pas du tout la même d'une région à l'autre, et la proportion des dossiers contrôlés n'est pas la même non plus. Donc là, si vous faites une carte de France des contrôles depuis quelques années, et vous allez voir que franchement, on voit très bien qu'au niveau organisation, elle n'est pas du tout homogène. Voilà. Ah, si, c'est très clair, très clair.
En termes de contrôle, les contrôles sont régionaux. Je ne peux pas penser qu'il y ait il y a une campagne de contrôle qui est organisée, qui démarre, on va dire, en février et qui s'étale jusqu'à la fin de l'année. Je ne pense pas qu'il y ait des régions qui échappent à la mise en place de ces contrôles.
Non, mais c'est dans la répartition au niveau des établissements. C'est très, très différent. Très différent.
C'est le résultat du ciblage qui est mis en place dans les régions. Hein.
J'allais vous le dire, de toute façon, vous allez avoir des contrôles qui seront de plus en plus ciblés, très clairement. Donc, par définition, vous allez tomber sur des situations de ce type.
Donc, je ne suis pas sûr de pouvoir vous répondre précisément. Hein. Peut-être que Joël va compléter ma réponse. Mais, bon, le sujet des prestations inter-établissements, c'est un sujet très compliqué.
Je confirme.
Hein? Non, mais je savais que j'allais avoir un succès sur ce sujet-là. Mais en même temps, j'ai dit que c'est compliqué parce que c'est aussi pour dire que la réponse qu'on va vous apporter par rapport à des constats qu'on a faits ne vont pas forcément, ça va pas être forcément opérationnel, puisqu'il y a des décisions à prendre sur ce sujet-là au niveau de l'administration qui ne sont pas encore totalement prises. Voilà.
Oui, puisque vous vous adressez à la TIH sur ce sujet des PIE, c'est vrai que c'est un sujet qui nous préoccupe depuis longtemps. Hein, et effectivement, je confirme ce que vient de dire Oussignola. C'est un sujet complexe, mais ça n'a échappé à personne. Vous évoquez une enquête compliquée à remplir, mais je me permets de dire que je ne pense pas que cette enquête émane de l'agence. Elle ne vient pas de l'agence, en tout cas pas à ma connaissance. J'ai interrogé mes collègues rapidement parce que ça ne me disait rien. Je pense qu'elle vient plutôt de la DOS, des GOS. On ne se renvoie pas la balle, mais...
On assume sans problème, Joël. Donc très clairement, bon, on ne va pas vous donner des éléments qui, pour l'instant, ne sont pas complètement finalisés. L'enquête était peut-être complexe, mais le sujet l'est. Je vais le redire aussi pour la troisième fois. Sachez qu'il y a des textes qui tournent en ce moment sur le sujet des prestations interétablissements. Qui sont difficiles à élaborer, parce qu'en effet, on voit bien qu'on est toujours entre l'aspect réglementaire pur et puis les notions de faisabilité et d'effet, je dirais, dans les établissements, et d'effet revenu, etc., dans les établissements, et donc de faisabilité derrière. Et donc, on a tout ça à gérer. Mais c'est un sujet sur lequel, en 2010, vous ne manquerez pas d'avoir de nombreuses informations. Voilà, on va s'y engager, en tout cas. Alors, en effet, il y a une révision en cours de la circulaire frontière. Je ne renverrai pas sur l'ATI qui a beaucoup contribué à la révision de ce texte, donc, puisque c'est un travail essentiellement en termes techniques. C'est un travail commun entre l'ATIH et la mission de la tarification à l'activité. Et ce texte devrait maintenant sortir très rapidement. Donc vous allez avoir très bientôt cette circulaire avec un certain nombre de précisions donc complémentaires. Moi, je ne l'ai pas redétaillé complètement le texte, mais vous allez avoir donc un certain nombre de précisions complémentaires par rapport à la circulaire qui est actuellement toujours en vigueur. Donc, hein. Alors, je vais passer le micro à Ousseini, avec bonheur, leur la mettre, puisque la question se veut technique. Je dirais quand même que c'est vrai que Félix Faucon a évoqué beaucoup l'exhaustivité, mais il l'a évoqué aussi de manière positive, parce qu'on l'a vu, on comprend bien pourquoi, quels étaient les enjeux pour les établissements, mais on a vu en effet ces taux d'exhaustivité augmenter très rapidement à partir du moment où on est passé au 100%. Hein, c'est bête, c'est trivial, mais bon, c'est comme ça. C'est vrai que l'exhaustivité à ce moment-là a fait vraiment des bons, je dirais. Je pense que le souci de Félix Faucon, c'était plus aussi une exhaustivité, je dirais pas non pas des séjours manquants, mais plus exhaustivité au niveau des actes en particulier. Et c'est vrai, avec les nouvelles habitudes de codage qui ont dû être mises en œuvre lors du passage à la V11, il y a eu ce temps d'adaptation, il l'a beaucoup évoqué, qui a été largement plus rapide qu'on ne l'attendait, avec des répercussions financières que vous connaissez. Et je pense que c'est plus à cette exhaustivité-là qu'il pensait, hein, de manière très ciblée.
Oui, donc je ne vais pas dire des choses très différentes de ce qu'a dit Eliane. Juste, je pense quand même que la tarification à l'activité, sa mise en place en 2005, je fais partie des acteurs de la mise en place de la T2A, a montré, lorsqu'on a fait les opérations concernant cette mise en place, ça a montré qu'en 2005, 2004, les données 2004-2003 qui ont servi de base n'étaient pas exhaustives. Cette fois-ci, en termes de collecte, c'est-à-dire, c'est même pas en termes de qualité des données médicales, c'était plutôt en termes de séjour. Et cette exhaustivité était aussi faisait défaut, notamment sur l'activité externe, parce qu'on parle beaucoup de séjour, on parle pas beaucoup d'activité externe. Les activités externes, c'est 2 milliards, donc ce n'est pas totalement négligeable en termes de recettes pour les établissements. Donc, cette exhaustivité s'est accélérée. En termes, je parle toujours, cette fois-ci, en termes de recueil exhaustif, c'est-à-dire le nombre de séjours, le nombre d'actes externes. Pendant toute la montée en charge du secteur, c'est-à-dire qu'on est passé tout de même vers une tarification progressive avec la fraction tarifaire, ce qui a donné probablement le temps aux établissements de monter en charge sur cet aspect-là, sur l'aspect physique, c'est-à-dire le fait de recueillir plus exhaustivement les séjours. Avec le passage à 100%, je dirais que je pense au moins sur les activités séjour, on n'est plus dans le débat sur est-ce que les établissements recueillent tous les séjours. Sous l'activité externe, peut-être de manière marginale, la question se pose. Ça, je ne suis pas capable de l'apprécier. Mais quand on regarde l'évolution de ce secteur aussi, on pense plutôt, enfin je suis plutôt d'avis qu'on n'est pas très loin sur cet aspect-là. Donc, quand on parle d'exhaustivité aujourd'hui, dans le débat qu'a situé Félix Faucon, en tout cas les pouvoirs publics, quand ils parlent d'exhaustivité aujourd'hui, c'est plutôt le fait que l'information médicale est aujourd'hui utile pour la tarification. Donc ça veut dire quelque part que quand on cote mieux, la valorisation est forcément plus importante. Donc certains s'en inquiètent, d'autres s'en satisfassent. Donc il y a quand même une petite difficulté, enfin il y a un problème d'appréciation. Donc Félix Faucon l'a dit dans les deux sens, dans le sens lorsque les établissements recueillent normalement, c'est très bien parce que effectivement dans ce cadre-là, ils sont financés au niveau où ils sont financés. Il a aussi dit dans l'autre sens, ce n'est plus en termes d'exhaustivité, je dirais, c'est que certaines personnes, enfin un certain nombre d'acteurs qui sont dans leur rôle, comprennent l'exhaustivité comme un codage, peut-être un surcodage, on va dire, pour aller très vite. Donc, comment situer les deux éléments par rapport aux dépenses d'assurance maladie? Donc, nous, notre fonction, pour revenir à votre question, qu'est-ce que la TIH peut faire? Nous, ce que nous faisons, et c'est ce qu'on nous demande d'ailleurs dans les deux, avec les deux casquettes, la casquette qui est aider les établissements à coder mieux, c'est-à-dire pour avoir une recette adaptée à leur activité, et aussi dans l'optique de tenir compte du codage dans la tarification, dans l'analyse des dépenses, pour essayer de voir dans quelle mesure on est dans un cheminement vertueux par rapport au respect de l'objectif. Donc, quelque part, une préoccupation sur ce codage, sur un contrôle de codage. Donc, on les regarde dans les deux aspects. Donc, effectivement, nous ne sommes pas dans l'optique de fournir aux établissements, puisque je ne suis pas sûr, enfin, ça, il faudrait peut-être Marion ou d'autres personnes peuvent répondre sur ce sujet-là. Je ne suis pas sûr que nous sommes les mieux placés pour contrôler l'exhaustivité des informations. La seule chose que nous pouvons faire, peut-être pour vous aider, probablement, c'est de comparer à les codages d'établissements. C'est ce que un travail que Marion avait fait sur les CHU, qui montrait notamment que sur certains CHU, il y avait peut-être un défaut de codage. Donc, signaler ce genre de choses. C'est ce qu'on peut faire. C'est-à-dire, c'est ce type d'outils qu'on peut faire. Mais je ne suis pas sûr qu'on puisse faire beaucoup plus. Je vais vous répondre sur les aspects techniques, pas politiquement, mais enfin, ça donnera quand même un éclairage sur les objets de l'objectif de ce passage en facturation individuelle. C'est très important la sémantique. Hein. On était en facturation directe jusqu'à, on était sur un projet facturation directe jusqu'à une période très récente. Et là, on est en facturation individuelle. Et donc, c'est important puisque on peut dire déjà dans le dispositif actuel, on est en facturation individuelle puisque ces jours sont valorisés individuellement. Sauf qu'effectivement, il n'y a pas une valorisation qui est opposable à l'établissement de manière, on ne sort pas pour chaque facture le montant. C'est la seule chose, c'est peut-être l'amélioration qu'on va avoir. Donc, je crois qu'il y a deux objectifs dans ce dispositif. Il y a d'abord l'objectif légitime, on va dire, de l'assurance maladie aujourd'hui, qui dit que dans le dispositif actuel, ils n'ont pas énormément de moyens au jour le jour de vérifier la facturation. Ça, c'est le premier sujet. Surtout, on va dire, ils ne sont pas, comme ils ont le droit de l'exercer, puisqu'ils considèrent tout de même que les assurés sociaux sont des assurés sociaux protégés par les régimes, donc ils souhaiteraient tout de même avoir, je dirais, l'information que leurs assurés fréquentent tel hôpital, dans quelles conditions il y a eu tel soin. Donc ça, c'est une des demandes de l'assurance maladie depuis toujours par rapport à ce sujet de la facturation individuelle. Donc la facturation individuelle telle qu'elle est conçue, ça va être tout de même quelque chose qui est centralisé vers la TIH. Et donc il n'y aura pas trop de changements, je dirais, sauf que ça va être au fil de l'eau au lieu que ça soit mensuel. En dehors de l'activité externe, par contre, où vous aurez des relations probablement, telles que le projet est aujourd'hui, vous aurez des relations directes avec les caisses d'assurance maladie. En ce qui concerne les séjours, on sera dans un dispositif actuel et c'est, je dirais, assez centralisé. En principe, ça va changer un petit peu, mais c'est surtout la périodicité, la fréquence de transmission qui va changer. Donc le deuxième objectif sur lequel je viens, c'est l'objectif, c'est ce qu'a rappelé Félix Cocon, l'environnement dans lequel nous sommes aujourd'hui. C'est-à-dire nous sommes aujourd'hui dans un environnement économique très difficile où ce qui se passe en Grèce interroge énormément les pouvoirs publics. Donc il y a tout un dispositif qui est fait pour suivre au plus près les dépenses d'assurance maladie et avoir une réaction rapide sur l'évolution des dépenses d'assurance maladie. Bon, l'hôpital représente tout de même quelque chose de très important dans les comptes sociaux, c'est 66 milliards. Donc, de ce fait, on ne peut pas imaginer que les pouvoirs publics ne se préoccupent pas de suivre les recettes des établissements, les dépenses pour l'assurance maladie de manière plus proche. Donc, l'idée de la facturation directe, c'est aussi de disposer rapidement d'indicateurs sur l'évolution des dépenses d'assurance maladie.
Alors effectivement, les DIM vont être en première ligne sur ce sujet, ça c'est évident. Il y a un autre sujet sur lequel les DIM ne sont pas toujours en position facile, c'est le domaine des prévisions d'activité. Dès que l'année est terminée, envoyée, donc dès fin janvier, début février, les directions nous demandent de leur donner des prévisions chiffrées pour l'année en cours, enfin qui démarre. Et les DIM sont souvent très très mal puisque les classifications évoluant, les tarifs également. C'est pas du tout une critique puisque je vois bien que tout ça c'est nécessaire, mais enfin en tout cas le DIM qui se retrouve dans son établissement est vraiment en difficulté puisque l'administration lui dit mais enfin je comprends pas, vous devriez nous fournir ces chiffres tout de suite. Voilà. Alors comment peut-on aider les DIM dans cette situation? Donc soit avec un peu plus de pédagogie, je dirais, vis-à-vis des directions d'établissement, puisque je ne vois pas comment un DIM peut inventer des choses qu'il n'a pas, je ne sais pas, en fournissant des outils, mais enfin, en tout cas, on ne peut pas laisser les DIM comme ça en difficulté, ce qui n'est pas l'intérêt ni des établissements, je pense, ni du ministère. Voilà.
Non, simplement, je crois que c'est... il s'agit d'un report donc, de délai sur 2018, en effet, qui a été donné pour permettre d'instruire davantage ce dossier et en particulier de mener un certain nombre d'études sur le contexte de cette convergence. Il y en a un certain nombre qui sont déjà qui ont déjà produit des effets, je dirais. On évoquait la précarité PDSH, vous le savez. Il y en a d'autres qui sont en cours, dont on ne peut pas dire à cette heure-ci si elles vont déboucher sur des modifications dans le dispositif de financement ou pas, parce que pour l'instant on n'a pas les résultats, mais il y a un certain nombre de chantiers qui tournent, et c'est vrai que on a été amené à démontrer que le chantier de la convergence était un chantier assez lourd qu'il fallait éclairer de manière très fine. Ça ne remet en rien, et je crois que ça a été clairement indiqué, ça ne remet en rien le principe même de cette convergence intersectorielle. Donc, il reste un principe qui est inscrit dans la loi, et donc c'est un simple report de date pour permettre de l'éclairer par des travaux qui sont menés d'ailleurs avec les professionnels.
Donc, on va répondre en duo parce que c'est à la fois technique et politique, on va dire. Donc, en ce qui concerne le chantier SSR, c'est probablement le sujet le plus lourd pour nous pour l'année 2010. Donc, on va s'investir de manière très importante sur ce secteur en vue de mettre en place la classification. Donc, on a un programme de travail très, très dense. en relation avec la DGOS, avec les fédérations, pour essayer justement de, comment dirais-je, de trouver peut-être la meilleure classification, la meilleure organisation, la meilleure mesure, on va dire, puisque de l'activité du secteur, et donc le financement adapté. En parallèlement, vous savez qu'il y a une étude de coût qui est en cours, dont les résultats vont arriver en 2011. Donc, conjointement, en confrontant ces données, plus le fait que nous allons, les médecins de la TIH vont faire un certain nombre de visites des établissements, vont discuter avec les cliniciens, tout ça dans le travail justement de mieux appréhender la manière de mesurer. Quand j'ai dit mesurer, c'est classification, enfin, on peut entendre un certain nombre de choses, pour aboutir techniquement, je dirais, à proposer aux différents acteurs le moyen d'asseoir un dispositif tarifaire qui tiendra compte notamment de l'activité, mais aussi d'autres éléments du schéma qui a été plusieurs fois présenté. Donc, sur l'ensemble de ces aspects, nous allons travailler. Donc, le calendrier est serré, pour vous répondre. Techniquement, le calendrier est très serré. 2012 paraît être une forte ambition sur les aspects techniques. Voilà ce que je peux dire. Mais pour nous, c'est un sujet prioritaire. C'est un sujet sur lequel nous allons mettre toutes nos forces pour essayer de réussir.
Bien. J'ajouterai rien à ça, si ce n'est qu'en effet, au niveau du ministère, on met une pression forte sur la TIH pour la tenue du délai de 2012. Vous l'avez compris.
Bien, j'aurais dû, en parlant du SSR, parler tout de suite de la psychiatrie, parce que je savais que la question allait être posée. Donc j'avais dit déjà hier qu'on a présenté le sujet sur le MCO parce que c'est dans le cadre de l'actualité sur le suivi des dépenses, c'est le secteur où l'évolution des dépenses est le plus important. Mais on travaille également sur les autres secteurs. Donc en ce qui concerne la psychiatrie, nous avons commencé à analyser les RIMP 2008. Nous allons analyser les informations en 2009. Nous sommes en train de mettre en place un programme de travail en relation avec la DGOS et en reprenant contact avec les psychiatres et les organisations de psychiatrie pour justement entamer des travaux en vue du financement. Sur ce secteur, je dois vous avouer qu'on est... Autant sur le SSR, on a des pistes sur la mesure de l'activité. Voilà. Autant sur le secteur psychiatrie, le champ est très ouvert. Le champ des possibles est encore très, très ouvert. Voilà. En ce qui concerne, parce que je vais vous répondre complètement, en ce qui concerne les aspects analyse de coûts, etc., donc nous y réfléchissons, hein, mais c'est pas, on n'a pas dit que dans la psychiatrie on ne fera pas d'études de coûts, ça n'a pas été, c'est pas un arbitrage, au contraire on est en train de réfléchir sur comment faire, étant donné tout de même que c'est un secteur assez particulier sur lequel les outils qui existent en MCO ou même qu'on a mis en place sur le SSR ne peuvent pas être transposés, voilà.